Quand on connaît Michel, on a une grâce, on a une chance, parce que c'est un homme inspirant. Alors mon ami, viens. Viens, parce que vous savez, il est un tout petit peu plus grand que moi, mais ce n'est pas sa force. Sa force, c'est sa vulnérabilité. Et c'est un homme qui est vrai. Et quand on est vrai, et ben ça fait la différence. Et il y a quelques semaines, j'ai envoyé, quelques mois même, j'ai envoyé une photo à Michel. Et c'est, sur cette image, en fait, c'était un homme, un beau gosse, mais il n'aime pas qu'on le dise, un homme qui gouvernait un bateau. Je lui ai partagé ça et le Seigneur, cette semaine, m'a demandé de le rappeler et de l'expliquer à tout le monde ce matin. En fait, un capitaine d'un bateau, il a des outils pour gouverner son bateau, mais le capitaine, il doit toujours regarder dans la bonne direction. Parce que ces outils peuvent à un moment défaillir, parce que ces outils peuvent avoir une panne, peuvent le tromper, mais si le capitaine du bateau regarde dans la bonne direction, alors le capitaine, lui, il ne se perd pas. Et un capitaine, il emmène avec lui son équipage. Et parfois, en tant que capitaine de bateau, il faut savoir faire des détours. Il faut savoir contourner les obstacles. Et Michel est un merveilleux capitaine. Il embarque avec lui son équipage, sa famille, ses enfants, sa femme, ses amis. Et je peux vous garantir qu'être à ses côtés, eh ben c'est un privilège. Vraiment. Et je sais que ce matin, le Saint-Esprit lui a parlé. Il lui a parlé depuis plusieurs jours, parce que Michel est un homme qui écoute. Et ce matin, notre capitaine, qui est ce matin à la barre, nous partage ce qu'il a reçu de son papa. Et vous êtes, les amis, tous invités à monter à bord du bateau. Laissez-vous faire. Le capitaine est à la barre. On te fait confiance, mon frère. Je sais que le Seigneur t'a parlé.
Je suis profondément heureux et enthousiaste d'être devant vous ce matin. Il y a beaucoup d'émotions dans ma voix. J'ai pas prévu de faire une performance oratoire spectaculaire, ni de faire des grandes phrases, des grands discours. Je vais même prendre quelques risques. Je me sens tremblant, j'ai vécu beaucoup de choses pour arriver jusque-là ce matin. Et je vais mettre un petit peu en danger quand je suis amené à prêcher. J'écris souvent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ma prédication, je passe du temps avec Dieu, bien sûr. Mais aujourd'hui, j'ai été conduit à faire un peu différemment. Et ça me met un petit peu dans mes petits souliers. Parce que c'est dans le silence que les choses ont été préparées. Et ce matin, on va laisser de la place à notre enseignant intérieur. On va laisser de la place à notre enseignant intérieur. Et je vais prendre tout mon temps, je suis connu pour être quelqu'un qui parle très vite. Mais ce matin, je vais prendre tout mon temps, si vous êtes d'accord. Vous avez envie de fermer les yeux, vous pouvez les fermer. Et je vais commencer par vous dire que ma femme a fait un rêve. Pour ceux qui la connaissent bien, vous savez que la nuit et le sommeil, c'est presque le combat de sa vie. Et elle a fait un rêve et elle m'a vu, sachant qu'elle ne connaissait pas mon message, être devant une foule, tenir un micro, et je n'ai rien dit. Alors je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver, c'est peut-être pas pour aujourd'hui, mais si un jour j'ai le micro et que je ne parle pas, c'est une chose qui m'a bouleversé parce que c'est le thème de mon message. Et pour être tout à fait précis, quand j'étais plus jeune, j'ai 38 ans, j'avais peut-être 14 ans, 15 ans, et c'était une grande église avec 600 personnes, et il y avait une réunion de jeunes, je me sentais un petit peu paumé, sans trop de conviction, et j'ai été dans un moment d'appel, pas incité à aller devant. Je vivais mal ma foi, j'ai fermé les yeux et en fait, alors que je n'avais jamais vu quelqu'un être visité par l'esprit de la sorte, j'ai eu une visitation de Dieu sur ma vie. Je me suis couché par terre, j'ai tremblé. Les pasteurs ne savaient pas ce qui se passait. Et tout ce que je me rappelle, c'est que j'ai fini à l'infirmerie de l'église. Et j'étais comme transporté. C'était indescriptible. On a appelé mon papa qui est venu me voir. Personne ne comprenait ce qui s'était passé. Même moi, je ne comprenais pas ce qui s'était passé. Mais quelques temps plus tard, je devais jouer du saxo sur l'estrade, mais je n'ai pas pu. Je l'ai posé, je me suis couché par terre. Et j'ai vécu quelque chose que je n'ai pas su décrire sur le moment, mais c'était une deuxième expérience. Il y a un fil rouge, en fait, dans ma vie, que je comprends de mieux en mieux. Un jour, il y avait dans une église, un grand rassemblement, beaucoup de louanges, beaucoup de dynamisme, et puis je me sentais dans une ambiance intérieure un peu différente. J'ai juste fermé mes yeux sur ma chaise, et j'ai vécu quelque chose d'incroyable. Et ce que je vais vous dire, peu le savent, mais quand j'étais étudiant, à Montpellier, dans les locaux de la fac de pharmacie pour devenir audioprothésiste, eh bien, à midi pile, quand les cours finissaient, je courais dans ma chambre d'étudiant, et en fait, je me couchais par terre. Il n'y avait pas forcément de musique, je ne priais pas, je ne lisais pas la Bible, mais il y avait la présence de Dieu. Et ça a changé ma vie, ça a duré durant des mois et durant des années. Ce n'est pas des choses qui sont faciles à décrire, mais en fait, nous sommes appelés à vivre ce que Luc 17-20 dit. Et on va aujourd'hui laisser parler la Bible avec une multitude de versets. Luc 17-20, interrogé par les pharisiens. Donc les pharisiens, c'est l'équivalent aujourd'hui des leaders ou des pasteurs qui sont à l'église. Les pharisiens étaient ceux qui étaient enseignés et enseignaient. Et ces pharisiens voulaient savoir quand viendrait le royaume de Dieu. Et Jésus leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer, c'est-à-dire qu'il n'est pas visible, il n'est pas sous nos yeux, ce n'est pas dans cette réalité. On ne dira pas, il est ici ou il est là, il est dans telle ou telle église, tel ou tel mouvement, car voyez, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Et la traduction la plus littérale n'est pas au milieu de vous, mais c'est du grec entos qui veut dire dedans. Et pourquoi je parle de Luc 10-20 ? C'est qu'un peu plus loin, il nous est dit dans Matthieu 6-33, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Il faut chercher. C'est en priorité. Et dans cette démarche de chercher, c'est un peu comme dans ce verset, frapper et l'on vous ouvrira, demander et l'on vous donnera. Il y a une dynamique de volonté à mettre en action. Et si la priorité, c'est de chercher le royaume de Dieu et que le royaume de Dieu est au-dedans de nous, notre priorité est de chercher à l'intérieur de nous le royaume de Dieu. Et pourquoi Jésus précise ça ? Parce qu'en fait, quand Jésus s'adressait aux religieux de son époque, il ne leur a pas dit chercher premièrement à manifester le royaume, mais plutôt à entrer dans le royaume. C'est pas pareil. Chers amis, des fois on veut manifester le royaume, on peut même le faire avancer, mais sans que ça soit une réalité intérieure pour nous. Et il y a un prix à payer pour ça. Et ce prix, pourquoi je parle de prix ? Parce qu'on a tous, vous, moi, de manière complètement égale, deux ressources. C'est le temps et c'est l'attention. Et ces deux ressources, on est tous au même niveau pour ça. Pourquoi c'est important ? Parce que c'est Matthieu 7, 21-23. Vous le connaissez, celui qui dit ce verset, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé les démons, fait beaucoup de miracles en ton nom ? Alors Jésus leur dira ouvertement, donc publiquement, je ne vous ai jamais connus. retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Non, mais c'est centralissime, en fait. Hein. On va le dire autrement. La volonté de Dieu le Père, c'est que vous vous connaissiez. Parce que l'apparence de la piété sans la piété, c'est de l'iniquité. Et je ne sais pas pour vous, mais moi je veux choisir la meilleure part. Vraiment. Vous savez laquelle c'est cette meilleure part ? C'est celle de Marie au pied de Jésus. Alors, c'était avant que le Saint-Esprit soit envoyé. Mais Jésus était ici et Marie était juste à côté, Luc 10, 38. Et elle était attirée par Christ. On va aller plus loin. Vous savez pourquoi c'est tellement important de parler de Christ en toi, en moi, qui forme le « en nous » ? C'est parce que Colossiens 1, 27 va dire que Christ en vous, c'est l'espoir de la gloire. Je ne sais pas si on comprend ce verset, on le connaît, mais est-ce que vraiment on a passé du temps dessus ? On peut le mettre dans l'autre sens. L'espérance de la gloire, c'est Christ en vous. Et cette gloire, ce n'est pas la définition humaine qu'on entend, c'est d'être dans sa gloire, dans sa présence. Et en réalité, dans la Bible, dans les paroles de Jésus, tout pointe vers l'intériorité. Tout pointe vers l'intériorité. Et on va redéfinir ensemble quelques priorités. Dans ma vie aussi, je veux remettre ces priorités en place. Et l'intériorité ne s'oppose pas à d'autres choses. On va être dans l'expression de nos charismes, de nos dons. Et c'est comme si... Ça, c'était quelque chose qui était assez spontané. On va le faire facilement. Mais des enseignements sur laisser Christ en nous grandir et le fait que le royaume de Dieu est en nous, souvent on pense que c'est un truc qui descend du ciel. Même quand on prie, on lève les yeux au ciel comme si le Saint-Esprit allait descendre du plafond. Je pense qu'on est tous pareils. Mais Christ, il est en toi, le Saint-Esprit, il est en toi. Et quelque part, ça fait un peu, pas peur, mais c'est un peu l'inconnu. On est bousculé quand on sonde un petit peu ces écritures. Mais moi, j'ai envie de nous dire, n'ayons pas peur, de suivre un mouvement de Dieu. J'ai écrit une phrase qui m'a fait pleurer. Je vous la donne. Le prochain réveil est celui de l'intériorité, qui est la porte du ciel en toi, par laquelle il y a transfert entre ciel et terre. Mes amis, je suis convaincu de ça. Moi, je ne veux pas rester sur mes acquis, vivre sur ce que j'ai appris dans le passé, je veux aller de l'avant. Et aller de l'avant, ce n'est pas vers quoi, mais c'est vers qui ? C'est vers Christ en moi. Je vais faire une toute petite pause, on n'est pas pressé ce matin, juste pour laisser notre enseignant intérieur toquer à la porte de notre cœur et qu'on puisse lui laisser quelques instants de silence. Dans un autre verset, Matthieu 23, 25 va dire aux pharisiens, encore aux pharisiens, donc aux religieux qui chapeautaient un petit peu l'enseignement à l'époque, Jésus va parler de faire attention à la propreté de l'intérieur de la coupe et non pas de l'extérieur. Et il va le dire avec un ton très précis vis-à-vis de l'hypocrisie. Et moi, quand j'ai lu ce texte, mon cœur a été sondé. Et ma prière, mon cœur, c'est de ne jamais vivre une extériorité, une apparence, mais vide d'une vie intérieure alignée, centrée, ancrée. Pas égocentrée, mais christocentrée. Et quand je dis que tout pointe vers l'intérieur, même certains psaumes parlent des chambres secrètes intérieures. On connaît ce verset aussi, « Rentre dans ta chambre, ferme la porte », etc. Mais Jésus ne parlait pas d'un lieu physique. La traduction la plus littérale parle bien d'un espace intérieur, c'est en toi. Trois autres passages. 1 Jean 4, 4. Celui qui est, on y revient, ça pointe vers l'intériorité en vous, est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais il faut le vivre, ce verset, en fait. Moi, je veux le vivre. Il faut se l'approprier, le sonder, l'expérimenter. 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous, Jean 14, 23, nous viendrons à lui, là Dieu utilise le nous, et il dit, nous ferons notre demeure chez lui. Vous ne trouvez pas que c'est incroyable quand même que tout pointe vers l'intériorité? Quand j'ai parlé d'enseignant intérieur, vous trouverez ça dans 1 Jean 2, 27. En fait, si moi je viens vers toi, ou que toi tu viens vers moi, et que je te dis, tu sais, Dieu t'aime, pourquoi ça n'a pas l'impact que c'est censé avoir en fait? Tu peux être ému, tu peux être touché, mais en fait quand tu entends quelque chose qui est extérieur, il y a plein de choses qui font que ça peut un petit peu ricocher, ou c'est pas aussi puissant que si toi tu entends la voix de Dieu qui te dit « Je t'aime ». Et si on est censé être des chrétiens, une église, des personnes aimantes, matures, qui faisons le bien, qui ne blessons personne, qui ne réagissons pas avec nos blessures, si on veut porter du fruit, en fait, c'est un peu ce qui est prévu à la base quand même, c'est que chacun d'entre nous, on doit entendre sa voix. Et tu sais ce que tu vas entendre en premier quand tu fermes tes yeux? Une fois que tous les bruits s'estompent, tu vas entendre celui qui est amour, qui est saint te dire « Je t'aime ». Et en fait, cet accueil, il est indescriptible. Il est irrésistible. Je vais prendre un exemple pour illustrer mon propos. Vous savez tous que je suis très amoureux de ma femme. Mais en fait, on peut se parler des fois et ne pas être connecté. On peut prier des fois et pas être connecté. Puis des fois, on prend conscience de l'autre à côté de nous. Et quand on lui donne notre temps, notre attention, et ben en fait, il y a une connexion qui se fait et elle est juste indescriptible. C'est un pâle reflet de la connexion entre l'épouse avec un petit E et l'épouse avec un grand E. Mais quelque part, on n'a pas trop appris, on n'a pas été sensibilisé dans notre christianisme moderne, occidental, à être dans le silence, comme si ça faisait un petit peu peur. On n'est pas confortable avec ça. Mais je vais témoigner et je vais m'appuyer sur tous ces versets pour vous dire que la clé, je pense que ce n'est même pas une des clés, je pense que c'est la clé, à partir de laquelle, donc l'intériorité, tout peut être enseigné au travers de donc notre enseignant intérieur. Et plutôt que de dire faire silence, c'est pas pour jouer sur les mots, mais c'est entrer dans le silence. Pour moi, c'est pas pareil. Je suis une habitation, j'héberge quelque part mon âme, mon esprit, et c'est en esprit qu'on se connecte à l'infini, à Dieu qui est en nous. Ah, j'aime ça. Vous savez, Abraham, quand Dieu lui a dit « va », vous savez que la traduction n'est pas complètement correcte en français. Il est écrit en réalité « l'er l'era », ce qui veut dire littéralement « va vers toi ». C'est le verbe et la traduction la plus littérale. « Va vers toi ». L'er, c'est « aller », ensuite « l'er », c'est « vers », et « ra », c'est « toi ». Donc le voyage, il est où pour Abraham? Mais il est d'abord à l'intérieur. Tout pointe vers l'intériorité. Et Abraham a avancé vers Abraham. De même, Saul a avancé vers Paul. Simon a avancé vers Pierre. Et j'ai écrit Mike a avancé vers Michel. Parce que vous ne m'avez pas connu avant, c'est pour ça. Je n'aimais pas mon prénom. Il n'y a aucun Michel qui est né en 1987. Papa, maman, je vous aime, merci pour ce prénom. Mais vous savez pourquoi c'est le plus beau prénom qui existe? Parce qu'il veut dire quoi, Michel? Ça veut dire « qui est comme Dieu ». Mais je porte un prénom incroyable, en fait. Merci, papa, merci, maman. Donc, toute notre vie, en fait, doit être focus sur ce passage intérieur pour passer d'un potentiel de destinée à une réalité. Et dans ces moments d'intimité, d'intériorité, de silence, on va rapidement faire un petit peu l'erreur de vouloir faire taire toutes nos pensées et de chercher une sorte de charismatisme intérieur. Avec des émotions, des images. Et c'est pas que c'est pas bien, je n'oppose pas les choses, hein, mais je recentre des priorités. Et je pense que bien souvent dans le silence, tu peux avoir une absence d'expérience, mais tu es juste en présence de Dieu. Et cette difficulté qu'on peut avoir à se centrer dans le silence, c'est que dans cette non-expérience, juste un petit peu initialement, c'est qu'on a été programmé un petit peu différemment. On va refaire une petite pause de quelques instants. Si tu veux fermer les yeux, même moi je pense que j'en ai besoin. Vous savez, quand on prépare un message, à chaque fois on se réécoute et on se dit « Ah, j'aurais dû dire ça ». Donc je ne sais pas ce que je dis, mais recevez vraiment ce qui est fort sur mon cœur, mais ce n'est pas sur le mien, c'est sur celui de Dieu pour son Église. Le prochain réveil. Je reprends la phrase, parce que je vais être fidèle à ce que j'ai entendu. Et celui de l'intériorité, qui est la porte du ciel en toi, par laquelle il y a transfert entre ciel et terre. Mais ça commence d'une position intérieure. Je vous laisse quelques instants de pause, de silence. Soyons à l'aise avec ça. Donc la question profonde est la suivante. A-t-on conscience du royaume de Dieu en nous ? Parce qu'en fait, il est déjà en toi. J'ai une bonne nouvelle quand même. Il est en toi. Mais tu peux ne pas en avoir conscience. En fait, c'est pas la conscience qui crée la réalité. Le royaume de Dieu est en toi. Et quand je prends le mot conscience, c'est purement une notion biblique. C'est un mot qui a été un peu galvaudé ou accaparé par d'autres mouvement de pensée, être en conscience. Mais c'est le verbe, ça vient du verbe eido en grec, savoir, concevoir. C'est quand Paul va dire, ne savez-vous pas, n'avez-vous pas conscience que vous êtes le temple du Saint-Esprit ? Ou dans Genèse, quand Jacob, il est sous l'arbre, vous connaissez, hein, cet endroit est terrible, il y a la présence de Dieu et ben, je ne le savais pas, je n'avais pas conscience. Je veux me réveiller et je veux être conscient du royaume de Dieu en moi et le chercher. En fait, on a une direction, hein. Il faut chercher. Si tu ne sais pas où chercher, c'est en toi. Vous êtes d'accord avec un petit peu moi ou pas ? Ouais, ça va ? Merci Jésus. Luc 17:20, donc le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous. Je pourrais le répéter encore et encore. Hein. C'est pas de l'égocentrisme, c'est du christocentrisme. C'est pas du développement personnel. C'est les mots de Jésus, hein, clairement. Un royaume, donc ça veut dire que c'est un espace, il y a un roi. Et quand tu vas fermer les yeux, parce que le mode opératoire le plus facile, c'est le silence. Eh bien, tu vas découvrir un royaume et un roi. Et quand tu vas le rencontrer et qu'il sera le roi de ton cœur, c'est comme si tout le reste après, ben c'est plus tellement toi qui vis. C'est lui qui vit en toi. Mais c'est des versets qu'on connaît, mais moi, je veux l'expérimenter. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je vais vraiment l'expérimenter. On sera amené après à le manifester, ce royaume. Le but, ce n'est pas que ça soit que pour soi. Mais ça doit partir de cette position. Ben, sinon, le risque, c'est qu'on retombe dans le verset de tout à l'heure où on peut ne pas être connu en connexion avec Dieu. Romains 14, 17, on poursuit. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par l'Esprit Saint. Ça, c'est intéressant. Pourquoi il est dit les choses ainsi? En fait, manger et boire, c'est juste indispensable pour vivre. Hein. C'est une réalité nécessaire pour la vie du corps. Mais la justice, la paix et la joie, donc c'est les fruits de l'Esprit, ben, c'est quelque chose qui ne peut pas être créé par la volonté. Ou en tout cas, c'est faux. C'est quelque chose qui résulte, qui pousse, qui est récolté, que l'on voit apparaître de manière visible, mais qui a pour origine une racine, une graine, une réalité intérieure un peu cachée, c'est en toi. Et moi, je veux porter plus de fruits. Je veux voir un arbre ne force pas pour faire pousser les fruits qui sont au bout de ses branches. Hein. Il est juste enraciné au bon endroit. Mais moi, je ne veux pas créer l'illusion d'être patient, créer l'illusion d'être bon, etc. Je veux, et si vous le voulez avec moi, on peut faire cette prière de ne pas chercher à les inventer, à les simuler, ou on ne peut même pas les acheter. On peut juste les vivre, les porter. Ouais, c'est incroyable. Et la voie royale pour avoir ce mode opératoire, hein, pour aller explorer ce royaume, bah, c'est le silence. Et moi, je me sens débutant dans cette façon de me connecter à Dieu, mais j'ai envie de nous proposer d'explorer quelque chose qu'on n'a pas forcément beaucoup entendu. Juste Jésus sur terre, vous imaginez comment sa relation avec Dieu le Père, si on est censé être disciple de Jésus, il faut qu'on s'inspire un petit peu de lui. Moi, j'imagine clairement Jésus en train de fermer les yeux, je vais prendre un mot très moderne, et en train de télécharger, de se laisser impacter, en tout cas forcément à l'écoute. Et je peux vous dire que parler et écouter en même temps, c'est juste impossible. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas prier, hein. J'ai juste envie de repositionner, parce que le Saint-Esprit me pousse à me le dire, à vous le dire, à nous le dire, que dans notre christianisme moderne, on n'a pas été assez sensibilisé à la contemplation, à l'intériorité. Mais vous savez que les premiers chrétiens, les pères du désert, ils étaient connectés à cette vie intérieure. Et ça a duré des siècles. Ça a duré des siècles. Alors, ce n'est pas un truc qui est super vendeur, hein, ce n'est pas super visible. Et je n'oppose pas les choses, les grands rassemblements sont indispensables. Mais encore une fois, c'est de cette position intérieure, conscient de sa présence depuis ce territoire intérieur du royaume de Dieu en nous, que nous pouvons l'incarner, incarner celui qui ne peut pas être contenu, qui n'a pas de limite. Se perdre dans l'amour inconditionnel est une folie quand on y pense. Mais vous savez, il y a des gens qui des fois viennent te voir, viennent me voir, et qui sont comme attirés par quelque chose que tu portes, mais c'est pas toi, c'est Christ en toi. Ah, Magali et moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises récemment, et ça fait quelque chose. C'est des petits indicateurs qui me disent, vas-y, continue. Tu es en train de passer de Mike à Michel. On continue. Galates 2:20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça pointe vers l'intériorité. On a déjà cité Colossiens 1:27. Mais en fait, c'est énorme. Moi, je veux explorer ça. J'ai l'impression que je me répète un petit peu, mais on n'est pas pressé. C'est le thème du message, c'est l'intériorité. Et quelque part, il y a plus que la vie avec Dieu, il y a la vie en Dieu. Je l'ai écrit, et quand je l'ai écrit, je dis, mais c'est tellement vrai. Il y a une différence fondamentale. Tu peux marcher avec Jésus, avec quelqu'un, mais il nous est appelé à vivre plus. Ça m'a, malgré tout, amené à reprendre ces deux versets qui résument toute la loi, vous les connaissez par cœur, dans Marc 12, 30, qui dit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Parce qu'on voilà, on peut ne pas vraiment aimer totalement. Et j'ai appris récemment que la traduction la plus littérale de ces deux versets, et voilà, absolument importantissime, c'est pas de tout ton cœur, c'est pas de, c'est dans tout ton cœur. Dans tout ton cœur, dans toute ton âme. Tout se passe à l'intérieur, puis vers l'extérieur. Ah oui, j'ai marqué un truc aussi sur Jésus quand il était sur terre. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous savez que sur 33 ans de vie, son ministère, il a été public uniquement durant 3 ans. C'est un dixième de son temps, en fait, ici-bas. Les 9 dixièmes de son temps, ça n'a pas été visible. Je t'aime, Jésus. Il y a quelques mois en arrière, j'ai parlé à mes enfants et je leur ai sorti une phrase, je l'ai un peu improvisée, je n'étais pas sûr de moi, mais elle ne me quitte plus depuis, alors je vous la donne. Et j'ai dit, les enfants, Jésus n'est pas venu amener la paix sur terre, mais la paix dans ton cœur. Et au moment où je l'ai dit, j'ai senti que, qu'est-ce que je viens de dire ? Jésus n'est pas venu amener la paix sur terre, mais la paix dans ton cœur. Alors oui, c'est le prince de la paix, mais il ne l'amène pas comme le monde la donne. Vous savez, Jésus est venu sur terre dans la période où les Juifs étaient oppressés par les Romains. Non mais imaginez quand même, un contrôle total, de l'injustice totalement, une société de contrôle totalitaire, corruption, impôts, meurtre, enfin crucifixion, c'est pire qu'aujourd'hui, hein. Et ses disciples étaient convaincus que Jésus viendrait les libérer de l'oppression romaine. Mon Dieu, que c'est normal, mais pas du tout. Et des fois, aujourd'hui, on espère que Jésus revienne pour enlever toute la corruption du monde en un claquement de doigts. Je sais pas, mais moi je pense que Jésus est venu d'abord amener la paix dans les cœurs, pas sur la terre. Matthieu 10, 34, il est écrit « Ne vous y trompez pas, parce qu'on pourrait être trompé. Je suis venu amener l'épée. » Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'a aidé tout ça. On dit des fois qu'on ne prépare pas un message, c'est Dieu qui prépare le messager. Et je me suis senti vraiment nourri par ces choses-là. Donc, je vous redonne la nourriture que j'ai reçue. Eh ouais. Donc, cette réalité intérieure finit par se voir. Hein. Pas d'inquiétude. C'est juste voilà, qu'on va impacter l'extérieur. Mais ce n'est plus moi qui fais, c'est Christ qui vit en moi. Et on poursuit. C'est pas parachuté comme ça par hasard, mais il y a un mot qui a été fort sur mon cœur dans ces moments d'intériorité, c'est le mot désert. Et je veux parler à quelqu'un ce matin, je pense que c'est même plusieurs personnes, et j'ai envie d'être très très rassurant. En fait, le désert fait partie du processus. Jésus me l'a dit clairement, le désert fait partie du processus. En fait, c'est même Dieu qui dit, je l'attirerai au désert. Non mais c'est pour faire quoi? C'est pour lui faire du mal? C'est pour nous faire du mal? Mais non, c'est pour parler notre cœur. C'est pas pour souffrir. Mais pourquoi on va au désert? Parce que dans le désert, tu as du temps et il a ton attention. C'est tout. Il n'y a rien. Donc le tout peut venir. Et c'est souvent dans ces moments-là que, peut-être malheureusement, oui, mais notre capacité à accueillir Dieu, ben, elle s'agrandit. Et il peut nous rencontrer. Alors, bien sûr, des fois le désert, on y rentre tout seul, des fois on y a été poussé. Mais notons que Jésus, après son baptême, il n'est pas monté sur l'estrade. Direction le désert. Le peuple, après la libération et la victoire en Égypte, là, et quand ils sont sortis, ils ne sont pas rentrés dans le pays promis direct. 40 ans de désert. Après notre conversion, est-ce qu'il nous semble des fois qu'on est un peu dans le désert? C'est une chose qui n'est pas impossible. On parle d'un désert intérieur, ça peut être un désert autre, mais Je pense que c'est un désert intérieur. Et la question, peut-être, parce que personne n'aime souffrir, mais c'est que ça fait combien de temps que tu ressens ça? C'est pas dans tous les domaines de ta vie, ça peut être dans certains domaines de ta vie. Ça fait 40 jours, ça fait 40 ans. Et je vous soumets l'idée, hein, qu'en pensez-vous? Mais je pense qu'il y a quand même une possibilité qu'on puisse influencer le temps qu'on met pour traverser ce désert par notre disposition à nous connecter, à écouter et à vivre ce qu'on a à vivre pour le traverser. Et oui, ça peut toucher ta famille, ça peut toucher ton couple, ça peut toucher ton travail, ta santé. Je n'ai pas énuméré plein de sujets. Tu connais ton enseignant intérieur est en train de te parler, tu sais très bien. Waouh. Ce matin, ma prière, c'est que tu expérimentes dans le silence, en conscience de Christ en toi, la puissance du murmure de Dieu qui va te dire « N'aie pas peur, je suis là » et après la suite, elle est entre toi et Dieu. Mais si c'est moi qui te le dis, si tu viens devant et que je te parle, ça n'a pas le même impact que si toi tu peux l'entendre. Je n'oppose pas les choses. Si tu étais devant moi, je te ferais un énorme hug. Mais il y a cette direction qui pointe vers l'intériorité. On va avancer vers Matthieu 11, 12, qui indique que le royaume de Dieu appartient aux violents. Et dans le grec violence, en fait, ça évoque ici littéralement une force énergique qui s'approprie. Et dans l'araméen, le champ lexical penche plutôt vers saisir intensément. C'est pas violent avec des muscles. Hein. Donc il faut chercher intensément et vraiment le faire. Moi en tout cas, je suis devant vous et je suis avec vous. Je suis devant, mais je suis avec vous. On est tous ensemble. Il y a une direction que le Saint-Esprit a mis fort sur mon cœur, mais c'est pour nous tous. Je dis pas que c'est facile, mais je dis qu'il y a une clé ici à chercher, à expérimenter. Et dans ma propre vie, j'expérimente des déserts, je ne comprends pas tout. Mais moi, je veux traverser le Jourdain et je veux faire une chose folle, c'est aller combattre Jéricho, c'est impossible. Durant 7 jours, tourner autour et vivre le miraculeux et le surnaturel. Je veux vivre le surnaturel dans ma vie, je veux avancer, je veux faire partie de ces disciples de l'amour qui expérimentent le surnaturel de Dieu. Alors bien sûr, il y aura une confrontation, hein, de royaume dès que tu vas commencer à te déployer dans cette direction de manière invisible. L'obscurité va t'empêcher de vouloir avancer vers ça. Mais à mesure que tu le rencontres, que tu porteras du fruit, c'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et c'est pas qu'on est triste dans cette situation, mais au contraire, le but c'est pas que... Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Mais vraiment, les plus grandes révélations sont devant nous. On a l'impression que des fois on est un petit peu dans le miroir, ou la nostalgie, ou qu'on pense savoir. J'ai envie de nous proposer de regarder vers devant. On ne sait pas ce qu'il y a devant. On a quelques idées. Mais si tu ne vis pas cette intériorité avec urgence, il y a un risque pour que ça soit un peu plus difficile. Si toi aussi tu ressens cette insatisfaction, moi je la ressens très fort en ce moment, je suis dans une saine insatisfaction. Il y a une invitation à nous recentrer sur cette priorité. Et je le redis, le prochain réveil est celui de l'intériorité, qui est la porte du ciel en toi, par laquelle il y a transfert entre terre et ciel, et à quel point la terre a besoin d'avoir des choses d'en haut. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est pas tellement un message, c'est pas une prédication, c'est un appel au réveil. Si vous voulez, on peut prendre quelques instants. juste pour être dans le silence. On n'est pas familier avec ça, hein. Je sais que c'est pas forcément facile, mais ça fait combien de temps que t'as pas passé 20 minutes dans le silence, pas en train de dormir, hein, où t'as juste fermé tes yeux, pour ceux qui reconnaissent le chemin là, de la photo, le bonheur d'avoir une petite cabane dans une petite forêt. Bah, quand j'y monte, eh ben, des fois je prie pas, des fois je loue pas, mais je suis juste en présence d'eux. Mais quand je redescends de ce moment-là, c'est trop bien. On va même pas mettre de piano, si vous le voulez bien. Juste votre enseignant intérieur qui est là. Je pense qu'on a besoin de silence. Merci pour votre attention. Parler, hein, mais à la maison, depuis un certain nombre de temps maintenant, quand c'est le moment du repas, eh ben, on ne prie pas, on se donne juste les mains tous les six et on ferme les yeux. Mais vous savez que c'est le meilleur moment de ma journée. Après un truc de... Voilà. Une multitude de tornades sur la journée, juste avoir ce moment à se donner les mains tous les six et juste faire silence. Mais l'enfant, lui, bon, il a un peu plus de mal, mais il commence à y arriver. Et c'est juste trop bien. Ça ne s'oppose pas avec le fait de prier, de prendre autorité, de déclarer. Ça complète, mais même presque ça recentre. C'est de cette position-là que la Bible nous demande d'avancer. Et c'est pas triste d'être dans le silence. C'est juste incroyable. Il y a la paix qui arrive, il y a la joie, il y a quelque chose d'incroyable. C'est juste Dieu. C'est midi pile, on va prier. Je ne sais pas comment prier, mais... Saint-Esprit, merci pour ce moment. C'est toi qui es notre enseignant intérieur. Et nous avons tous le même. Mais dans nos différences, tu es capable de nous parler ce matin tu avais un message à nous faire passer. Et oui, je veux l'écouter pour ma vie. Nous voulons l'écouter et nous centrer sur, non pas nous-mêmes, mais sur la réalité du royaume de Dieu en nous. Chercher d'abord le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu est au-dedans de vous, de toi, de moi. Et que nous puissions devenir cette communauté de personnes tellement conscientes de Christ en eux, que la différence, elle se fait pas par nos talents, nos dons, ça va s'exprimer naturellement, mais que ça soit lui en nous, réellement. Mes amis, je vous laisse avec ces phrases. Si vous voulez rester dans le silence, vous pouvez, ça peut... J'ai même presque l'intuition de dire que ça peut être juste un petit avant-goût de ce que tu pourras vivre demain, après-demain. Et que quand tu te connectes à Dieu, il y a quelque chose de différent. C'est ma prière. Amen.